Radio Canut vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Hubert. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Elle est dans son lit, 3h du matin, il n'est toujours pas rentré. Elle soupire et se lève. Elle est habillée d'une chemise de nuit longue blanche, Elle va à la fenêtre. Peut-être ne va-t-il pas tarder. La rue est allumée par un réverbère et elle est vide. Un fiacre apparaît et s'arrête devant l'hôtel particulier des Langevais. On sort un homme habillé d'une redingote et d'un chapeau haute forme noire. Il pèle le cocher et entre dans l'hôtel. Le voilà enfin. Adèle sort de sa chambre en vitesse. Elle a pris en passant sur une commode une lampe à huile. L'homme monte les escaliers. Il va au premier étage, il voit Adèle dans le couloir. Il s'avance vers elle. Émile, j'ai à vous parler. À cette heure-ci? Oui, si vous étiez rentré plus tôt, ça aurait été plus tôt. Où allons-nous? Nous serons tout aussi bien dans ma chambre, pour une fois que vous y rentrez. Ils vont dans la chambre d'Adèle. Émile en rentrant quitte son chapeau. Si tu permets, je vais me rallonger. Pendant qu'elle se rallonge, il prend une chaise qui est contre le mur et va la poser à côté du lit. Elle s'appose sur le lit et s'assoit. Voilà ce que j'ai à te dire, Émile. J'en ai assez de tes aventures. Tu rentres à point d'heure, tu dépenses des sommes folles pour ces filles. Il faut choisir, ou c'est moi ou ce sont elles. Et puis pense à ton fils, maintenant il est en âge de comprendre. Alors, que décides-tu?
Moi, je dois vous avouer que je me pose cette question. Dois-je continuer à vivre avec toi? Je suis incapable d'y répondre. Que veux-tu? Nous sommes mariés trop tôt et jeunes, et puis notre cousinage fait que je te prends plus pour une sœur qu'une épouse.
Pourtant, tu m'as aimé?
Oui, je t'aime toujours, mais j'ai besoin d'autre chose, de nouveautés.
Et notre fils?
Je l'aime de toute mon âme, et je suis très heureux que nous l'ayons fait ensemble. Mais tu comprends, j'ai besoin de nouveautés.
Ça n'a rien à voir avec le sentiment. Tu ne me désires plus? Je ne suis plus désirable?
Si, tu es toujours aussi belle et désirable, mais j'ai besoin d'autre chose, c'est tout.
Écoute, nous partons demain. Nous reparlerons de cela après les vacances.
Bien, je veux bien.
Il se penche vers sa femme et lui donne un baiser sur la joue. Se lève et sort. Il le regarde partir. Émile est plus grand qu'elle. Il est mince, brun, porte une petite moustache, les yeux bleus. Il a beaucoup d'élégance dans ses traits. Il a 35 ans, un an de plus qu'elle. Mais elle fait plus vieille, ses yeux sont cernés. Le nez est petit, mais la bouche grande. Malgré tout cela, elle ne manque pas de charme.
Lorsqu'il se réveille, sa chambre est déjà baignée de soleil. La porte de sa chambre s'ouvre. C'est la bonne, une jeune fille de 20 ans, mince et brune.
Bonjour monsieur, vous avez bien dormi? Oui. C'est aujourd'hui que vous partez en Bourgogne?
Oui, je vais dans le château de mon grand-père.
L'enfant sort du lit. Il est habillé d'une chemise de nuit blanche. Il a 10 ans, mince, cheveux blonds qui ondulent, yeux bleus et un magnifique sourire. Il court vers sa bonne.
La Aide-moi vite.
Faut qu'ils aient pris leur petit déjeuner. Adèle sort de la salle à manger pour aller voir si les bagages sont prêts. Dans le hall d'entrée, elle trouve la bonne, le majordome et le cocher.
Tout est-il prêt ?
Oui, madame, dit le majordome.
C'est bien, nous nous habillons et nous partons.
Les chevilles sur les routes de France ensoleillées et poussiéreuses. Ils traversent villes et villages sans encombre.
Et regarde à la fenêtre le paysage. Il aimerait que ce voyage ne finisse jamais. Sa mère, par contre, au bout de 2 heures de voyage, se sent lasse et fatiguée.
Quant à son père, il se demande ce qu'il va faire durant toutes ses vacances.
Arrive. Il est 21h. Le château, qui a appartenu au grand-père d'Émile, est du 18e siècle. Il se trouve en pleine terre vignoble. La calèche s'arrête devant les perrons. Les passagers sont fourbus, fatigués et poussiéreux. Ils sortent de voiture. Les domestiques du château s'approchent et prennent les bagages. Une fois rentré, chacun entre dans sa chambre pour se changer et se dépoussiérer. Hubert est dans sa chambre, il est en chemise de nuit et se couche. Une chambre tapissée bleue, il a un lit bateau, une table de nuit, un petit bureau et une chaise. Les meubles sont en merisier. À terre se trouvent des jouets de toutes sortes. Hubert se dit que demain ce sera une belle journée. Il ira jouer au jardin. Après avoir fait sa toilette, Hubert sort de sa chambre en courant. Il a envie d'aller au jardin. Il rencontre une domestique qui lui dit de ne pas t'en courir. Longe le couloir et descend les escaliers en courant. Tout à coup, l'enfant rate une marche et tombe.
Ah !
Adèle et Hubert sont tous les deux assis sur un canapé en se tenant la main. La pièce peine de soleil. La tapisserie vieillore accentue encore plus la lumière d'été. Le médecin, un vieil homme à cheveux et barbe blanche, est debout devant eux. Il porte une redingote grise.
« Je crois que malheureusement votre fils ne pourra pas se développer normalement. La croissance de ses jambes risque d'être bloquée. »
Adèle, en entendant cette phrase, a le souffle coupé.
« Mais, pourtant, il a fait des progrès ? Il marche ?»«
Oui, il marche. Il marchera, mais ses jambes ne grandiront pas. »«
En êtes-vous sûr ? » ?»«
On n'est jamais entièrement sûr. Mais vu la chute qu'il a eue et l'endroit où le cerveau a été accidenté, bien sûr, la médecine n'est pas aussi avancée pour en être sûr. » Mais il faut s'attendre à tout.
Émile demande. Que faut-il faire, docteur?
Rien. Continuer sa rééducation, c'est tout.
Émile se lève et reconduit le médecin vers la porte. Juste avant d'ouvrir la porte, il tend la main au médecin et lui dit.
Merci, docteur.
Puis, il va rejoindre sa femme. Sois à côté d'elle. Elle lui dit,
qu'allons-nous faire?
Ce qu'a dit le médecin, et surtout ne pas lui en parler.
Prions Dieu pour qu'il guérisse.
Des jours passent. Hubert réapprend à marcher en se servant de béquilles, mais il a le moral. Ses parents ne lui ont rien dit. Un jour, son père l'aide à marcher dans le jardin.
Tu vois, tu y arrives. Tu vas bientôt guérir.
Oui, père, j'ai hâte de courir.
La mère ne supporte plus la vue de son fils. Chaque fois qu'elle le voit, elle se met à sangloter, car elle a l'impression de voir un monstre. Pourtant, l'enfant semble normal. Hubert marche seul maintenant. Il est heureux d'avoir retrouvé ses jeux en plein air. Le père et la mère se sont réconciliés et ont décidé de continuer à vivre ensemble. Un an a passé, l'enfant a grandi mais ses jambes non, la famille est retournée en Bourgogne. Adèle est très lasse et ne parle presque plus. Ce qui la ronge, c'est d'avoir un fils infirme et qui deviendra laid. Hubert ne s'est rendu compte de rien. Après-midi, Émile et Adèle sont sur la terrasse, assis sur des chaises en osier. Émile voit sa femme encore morose.
« Qu'as-tu ?
Rien.
S'il y a quelque chose, dis-le-moi.
Comme si tu ne savais pas ce qui n'allait pas.
Elle se lève et marche en froissant son mouchoir entre ses mains.
Votre fils devient infirme, infirme, et tu me demandes ce qui ne va pas. Je ne supporte plus la vue de cet enfant, ni la tienne d'ailleurs. Tu veux savoir la vérité? Nous n'aurions dû jamais nous marier. Le cousinage, Dieu n'aime pas ça. La preuve, regarde notre fils. Tais-toi, je t'en prie.
Hubert a tout entendu derrière une haie.
Il se sauve en courant, la tête qui bourdonne, l'envie de mourir.
Il sauve pour aller dans sa chambre, le seul refuge qu'il connaisse.
Seul, avec lui-même.
Et jeté sur son lit, couché sur le ventre, il sanglote.
Je ne suis qu'un monstre. Je ne suis qu'un monstre.
Fin de journée, le père se demande où est son fils. Après avoir cherché dans le jardin, il monte à sa chambre. Frappe et ouvre la porte. Il voit son fils couché sur son lit qui sanglote dans ses draps. Il s'approche de lui. Se penche.
Qu'as-tu, mon petit ?
L'enfant ne répond pas. Il lui caresse ses cheveux.
Tu veux pas me dire ce que tu as ?
Je vous ai entendu, mère et toi.
Le père frissonne.
Et alors ?
Je ne veux pas être monstre.
Mais tu n'es pas un monstre. Tu es mon fils et je t'aime. M'aimes-tu, toi aussi ?
L'enfant se retourne. Il a le visage plein de larmes.
Oui, père.
Alors si tu m'aimes, il faut sécher tes larmes et continuer à vivre comme avant. Embrasse-moi. Hubert embrasse son père. Le temps passe. Durant l'hiver, la mère attrape une pneumonie. Et en mort. Le fils, en grandissant, a honte de son physique et ne veut voir personne. Beau jour, il retourne en Bourgogne. Le fils a 15 ans. Il a un très joli visage et à part ses jambes, son corps est normal. Avec une couverture sur ses jambes, il ressemble à un adolescent tout à fait normal. Il est même plus beau que les autres adolescents, car la souffrance morale lui a affiné les traits. Il ne parle presque pas et reste enfermé dans sa chambre devant la fenêtre à regarder le ciel.
Les quelques pas qu'il fait, il les fait entre ces quatre murs. Il lit aussi beaucoup, Musset, Chateaubriand, Lamartine. Sa détresse, ses occupations lui ont affiné son caractère et l'ont rendu d'une sensibilité extrême. Le père a changé lui aussi, il a blanchi et est devenu taciturne et solitaire. Que tu voyes du monde, que tu sortes. Ils viendront nous voir et tu le recevras avec moi. Non, je ne suis pas un monstre que l'on monstre dans une foire. Tu n'es pas un monstre, tu es mon fils et tu me feras le plaisir de le recevoir. Tu as 15 ans. Il faut que tu réagisses comme un homme et pas comme un enfant, d'accord? Montre malgré ton handicap, ton soi-disant handicap, que tu es plus fort que les autres et que tu peux aussi bien te comporter que quiconque en société. » Le père l'embrasse et sort. C'est que son fils a besoin d'être seul pour se remettre de cette nouvelle. L'invitation tombe mal pour Hubert, car c'est à cette époque que son corps devient adolescent. Ses jambes restent les mêmes, mais le reste de son corps se transforme. Son sexe, devenu adulte entre ses jambes, atrophié, devient une chose énorme. Cela dégoûte Hubert, car lorsqu'il bande, cela le ramène vers une partie de son corps qu'il voudrait ignorer. Deux jours plus tard, la calèche et Clément s'est arrêtée devant le perron du château. En sort un gros et grand homme de 50 ans, habillé d'un costume beige, c'est le père. Il est brun et porte la barbe. Une jeune fille d'une quinzaine d'années, grande, mince, cheveux longs blonds, visage souriant, elle porte une robe bleue claire. C'est la fille Sophie. Un jeune homme de 17 ans, grand, mince, brun, visage tout en sourire, il porte un costume blanc, c'est le fils, lui. Emile et ses domestiques leur souhaitent la bienvenue. Je suis très heureux de vous recevoir. Vous mettrez un peu de joie dans cette maison qui a eu beaucoup de malheur. Le père s'approche d'Emile.
Oui, je le sais, mon pauvre ami. Et votre fils, où se trouve-t-il?
Il est dans sa chambre. Il n'a pas pu descendre. Il a pris un peu de fièvre, mais vous le verrez pour le repas du soir. Et ils entrent dans le château. Domestique décharge des bagages. Émile conduit ses invités au premier pour leur montrer leur chambre. Sa chambre à côté de celle d'Émile et les enfants en face de celle d'Hubert. Frère et la sœur auront une chambre chacun. Avant de les quitter, Émile leur a dit de ne pas rentrer dans la chambre de son fils sans qu'ils y soient invités, car il est très fatigué. Après avoir rangé leurs affaires et fait leur toilette, lui et Sophie se promènent dans le parc. Lui, l'air attristé, parle à sa sœur. Le séjour ici ne va pas être gai. Entre le père veuf et le fils malade, quelle idée a eu notre père de nous mener ici?
Que veux-tu? Les Langelais sont d'anciens amis de père. Ne t'en fais pas, nous ne resterons pas longtemps ici.
lorsque Sophie et lui arrivent dans la salle à manger pour le dîner, ils voient que se trouve en face de Père et Monsieur de Langelais un jeune homme blond d'une quinzaine d'années. Il porte sur ses genoux une couverture écossaise. Le père leur dit
« Approchez, mes enfants !»
Ils s'approchent.
« Je vous présente Hubert. »«
Bonjour, bonjour. »«
Hubert, je te présente Sophie et lui. » Mes enfants, j'espère que vous sympathiserez.
Les enfants se mettent à table en face d'Hubert. Hubert se sent gêné et très intimidé. Cela fait si longtemps qu'il n'a pas été en présence d'enfants de son âge. Quant à Sophie et lui, ils ne savent que faire.
Le repas se passe en silence, à part les deux pères qui disent une phrase une ou deux entre les plats.
Une fois que le repas est fini, ils vont tous au salon. Hubert, pour ne pas montrer sa difformité, se déplace en chaise roulante. Malgré ses courtes jambes, il aurait pu marcher. Mais l'on aurait pu voir sa malformation. Les deux pères vont s'asseoir dans un coin pour fumer et discuter. Émile voit que les enfants sont assis sur des chaises et ne savent que faire.
Hubert, fais jouer tes invités à quelques jeux de société.
Hubert leur demande s'il veut jouer au jeu de loi. Ils acceptent. Hubert appelle un domestique pour apporter le jeu de loi. Hubert s'est mis en face du frère et de la sœur. En jouant, ils se détendent un peu et il leur arrive même de rire. À 9h, Hubert s'arrête de jouer. Il veut que l'on mène dans sa chambre. Il est fatigué. Le lendemain, dans la journée, il fait particulièrement chaud. Tout le monde est assis sur la terrasse autour d'une table de jardin. Hubert et Sophie sont assis l'un en face de l'autre. Au bout d'un moment, Hubert s'est endormi, la tête sur le côté, légèrement inclinée. Les rayons du soleil qui traversent les feuillages illuminent son visage. Il a la bouche légèrement ouverte et un peu boudeuse, comme un petit enfant. Sophie pose son verre d'orangeade sur la table.
Tout en remontant la tête, elle aperçoit le visage d'Hubert.
Elle est surprise et émerveillée par la pureté et la beauté de ses traits. Elle ne sait pourquoi, mais son corps se met à battre très fort et une espèce d'angoisse vient troubler sa contemplation. À partir de cet instant, Sophie passe des heures à contempler Hubert. La nuit, dans sa chambre, elle ne cesse de penser à lui. Elle se remémore son visage avant de s'endormir. Quelquefois, en y pensant, ses seins se gonflent et lui apporte une allégresse infinie qui lui fait oublier son angoisse. Elle aimerait bien qu'Hubert soit tout près d'elle, contre elle et dans elle. Mais elle ne comprend pas pourquoi. Dans les jeux, les promenades qu'ils font ensemble,
et qu'Hubert fait en chaise roulante, elle est toujours près de lui et le contemple. Elle est tellement prise par son amour qu'elle en oublie de la chaise roulante. Ni le frère, ni Hubert ne s'aperçoivent de son trouble. Un après-midi, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner sur la terrasse, avec des fruits et des tartines de confiture, Hubert, qui se trouve à contre-jour, en chassant une mouche qui tournait autour de son visage, voit, tout à coup, Sophie en face de lui. Troublé par sa beauté, mais n'ose pas la regarder longtemps. La journée, il observe à la dérobée et la trouve délicieusement belle. Désormais, il ne sait pourquoi, toutes ses pensées sont prises par la jeune fille, mais il en souffre car il se dit « Jamais je ne pourrai être aimé par elle. Comment pourrait-elle aimer une personne comme moi? Mon Dieu, qu'elle est belle !» Hubert rêve à Sophie, et inconsciemment, sans savoir que c'est à cause d'elle, il bande si fort qu'il est obligé de se masturber. Cela est très ennuyeux, surtout la première fois, il n'avait rien pour se nettoyer. Sophie ne s'est pas rendu compte du trouble d'Hubert, tout comme Hubert pour le sien. Jours passent, Émile est heureux car il voit que les rapports des enfants avec son fils sont plutôt bons. Hubert aime de plus en plus Sophie et inconsciemment s'est mis à rêver qu'elle pourrait l'aimer. Mais il ne fait rien pour lui prouver son amour. Elle s'est mise à idéaliser son amour. Elle ne voit plus tellement Hubert comme il est, plutôt elle ne le voit même plus du tout. Car de ne pouvoir extérioriser son amour, elle le rêve. Et transforme Hubert en une sorte de personnage de conte de fées. Matin, elle ne trouve pas Hubert au petit déjeuner. Où est Hubert? Il est dans sa chambre. Il n'est pas très bien ce matin. Cette nouvelle l'attriste beaucoup. Déjeuner, elle monte à la chambre d'Hubert. Frappe à la porte et entre. Elle voit Hubert debout en train de se peigner, les jambes courtes et arquées comme celles d'un nain. Ah ! Elle se sauve en courant. Hubert a été surpris par cette apparition et se met à hurler de souffrance lui aussi. Ah ! Attiré par les cris de son fils, son père accourt dans la chambre. S'approche de son fils. Que se passe-t-il? Laisse-moi. Je veux mourir. Je suis un monstre. Personne ne peut m'aimer. Personne. Je suis un monstre. Le père tend les mains pour lui caresser les cheveux. Il se recule. Non, je ne veux pas de votre pitié. Laissez-moi tranquille. Je veux pouvoir plus personne, plus personne. Le père quitte la pièce. Le père trouve au salon Sophie qui pleure, debout, devant une fenêtre. Il s'approche d'elle.
savais pas qu'il était comme ça. Je ne savais pas.
Vous êtes allé dans sa chambre? Vous l'avez vu?
Oui.
Pour Sophie, son rêve se termine. Adieu, prince charmant. Adieu, amour. L'on ne peut pas, à 15 ans, aimer une personne difforme.
Père a expliqué à leurs invités qu'il faut qu'ils écourtent leur séjour. Ils ont compris et partent le lendemain matin. Père ne s'est pas montré. Il est resté enfermé dans sa chambre, l'âme en peine. Cette histoire a beaucoup attristé Émile. Il s'est mis à la place de son fils, faisant peur par son physique à une jeune fille. Le temps passe. Le père a décidé d'habiter toute l'année le château. Il a vieilli et beaucoup changé. Son fils ne sort plus de sa chambre et le père ne le force plus à le faire. Lui, à part ses jambes, est devenu beau et grand. Mais son caractère s'est aigri et il ne supporte plus que la solitude. Même la visite de son père lui pèse. Il passe ses journées à lire et à regarder à la fenêtre.
Hola.
Un jour arrive un notaire qui demande à être reçu. Émile le reçoit dans son salon. Un gros homme, gras, dans les 60 ans. Ils sont assis l'un en face de l'autre.
Monsieur, j'ai une bien triste nouvelle. Madame Henriette Bernardin vient de décéder il y a de cela 15 jours, le 28 septembre.
Cette dame,
qui était peu fortunée, laisse un fils de 15 ans. Vous seriez le père. Avant de mourir, elle a émis le souhait que vous légitimiez l'enfant.
Il est surpris. Ce retour au passé lui paraît étrange. Il ne peut pas s'imaginer avoir vécu ces aventures, et surtout celle-ci, avec la veuve d'un de ses amis. L'enfant, il ne l'avait jamais vu.
Si vous refusez de vous occuper de cet enfant, il sera mis dans une école d'apprentissage aux frais de la commune.
Émile sait ce que c'est qu'une école d'apprentissage, et cela l'attriste.
Si vous le désirez, vous pouvez voir l'enfant. Cela ne vous engage à rien.
C'est malgré tout mon enfant. Pourquoi ne le verrai-je pas? Je vais en parler à mon fils. Je vous donnerai ma réponse. Une fois que le notaire est parti, Émile va dans la chambre de son fils. Il lui dit la nouvelle.
Cela t'ennuierait si un enfant venait vivre chez nous?
Si cela vous plaît, du moment qu'il ne vient pas me voir. Émile va voir l'enfant qui a été mis dans une famille en attendant.
Attendez-moi.
Émile est surpris de voir l'enfant qui ressemble beaucoup à son fils. Il s'appelle André. L'enfant, lui, est indifférent. Du moment qu'on semble s'occuper de lui, c'est le principal. Il emmène l'enfant avec lui. Voir l'enfant et reste enfermé dans sa chambre. Mais il entend de sa chambre André courir, aller, venir. Quelquefois, il entend rire son père, ce qui lui fait très mal.
Un jour, il s'est penché à la fenêtre et a vu André courir dans le jardin avec des jambes longues, fines de jeunes adolescents. Cette vue l'a fait beaucoup souffrir. Père vient le voir tous les jours et le trouve déprimé de jour en jour. Tu ne sors pas, c'est pas bon de rester enfermé comme cela. Un jour, en jouant à la balle, André a cassé la vitre de la fenêtre de la chambre d'Hubert. Chercher la balle dans la chambre d'Hubert. Tape à la porte. Réponse, il entre. Voit un adolescent évanoui sur une chaise, des débris de verre sur lui, le visage en sang. Il sort de la pièce en courant pour aller chercher Émile. Lorsqu'Hubert reprend ses esprits, il a près de lui Émile et André. Son père lui a nettoyé les quelques petites plaies insignifiantes sur son visage. C'est la peur qui lui a fait perdre connaissance.
Ça va mieux?
Oui. Que fait-il avec toi?
Dis-lui de partir.
Pourquoi? Maintenant qu'il t'a vu, vous feriez mieux de sympathiser?
Jamais.
André s'avance vers lui et lui dit.
Pourquoi jamais? Tu es jaloux parce que je ne suis pas comme toi?
Hubert hausse ses épaules. Je ne peux pas être jaloux d'un cutéreux,
moi d'un infirme, qui n'est même pas capable de vivre comme un cutéreux, comme tu dis.
C'est ce que nous verrons.
Alors sors de ta chambre.
D'accord.
À partir de cet instant, Hubert essaye de vivre comme son demi-frère. Il réapprend à se servir de ses jambes, il sort, il pargue. Une fougue étrange le prend de vivre comme tout le monde. Et le moteur qui le force à braver, à aller plus loin, c'est André. Lors, il se met à l'aimer, car il sent que ce saut passé donne une ivresse incomparable. Le père est heureux de le voir changer ainsi.
Le temps passe, et un matin d'hiver, sous la neige, le père est retrouvé mort dans le parc. Crise cardiaque. Après l'enterrement, les deux jeunes gens restent seuls. C'est Hubert qui a hérité de la fortune de son père, mais s'il mourait, ce serait André qui en hériterait.
Ils ont tous les deux une vingtaine d'années, et c'est un administrateur qui s'occupe de gérer les biens de la famille.
Les jeunes gens s'entendent bien et quelquefois ils vont à la ville ensemble au bordel. Des deux ne pensent à se marier. Hubert à cause de ses jambes et André parce qu'il aime mieux s'amuser.
Un matin d'hiver, André a fait tomber volontairement Hubert dans le lac du château.
Le domestique le rattrape, mais il a une pneumonie.
Il en meurt.
hérite de la fortune. Un jour, en descendant les escaliers, il tombe.
Ah !
Les jambes cassées, le crâne fracassé, que mort. Il se réveille dans son lit, paralysé des membres supérieurs et inférieurs. Il restera dans son lit 40 ans, mené, malmené, par des domestiques qui feront ce qu'ils voudront.
Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Hubert. Mise en scène, production, Julien Jean-Pierre, enregistrement, CVRP.